Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Un soir de 1923, un milliardaire américain issu d'une des plus riches dynasties tombe amoureux non pas d'une femme, mais d'une ancienne résidence des rois de France qui tombe lentement en ruine et décide de lui consacrer une partie de sa fortune. Je vous raconte maintenant John Davison Rockefeller Jr. qui a inscrit son nom dans la pierre de Versailles. Ce 30 juin 1923, Versailles est telle une belle endormie qui sort soudainement de sa torpeur. La Société des Fêtes Versaillaises a organisé une soirée exceptionnelle où se presse le tout Paris. Les convives sont attendus pour un grand souper des candélabres dans la galerie des batailles. En fait de bougies, c'est à la lumière des lustres électriques introduits pour la première fois au château que dîneront les convives. Les pompiers de service veillent. Pas de quoi gâcher la fête cependant, qui se poursuit dans la galerie des glaces avec un spectacle orchestré par Serge de Diaghilev. En coulisses, les danseuses vedettes des ballets russes se changent dans les appartements de Madame de Maintenon et dans l'antichambre du roi. De l'avis de tous, la soirée est inoubliable. Mais pour John D. Rockefeller Jr., milliardaire américain en vacances en France, elle est bien plus que cela encore. Lorsqu'il met le pied à Versailles, 17 ans après sa dernière visite, John D. Rockefeller Jr. a presque 50 ans. Oui, il est né dans les années 1870 à Cleveland, dans l'Ohio. Il est le cinquième enfant mais unique garçon de John Davison Rockefeller, le fondateur de la Standard Oil Company et tout simplement l'homme le plus riche du monde. Le patriarche Rockefeller, issu d'une famille modeste, a fait fortune en exploitant les ressources en pétrole des sols américains. C'est un homme d'affaires aussi génial qu'impitoyable et détesté pour sa position de monopole obtenue par des moyens pas toujours reluisants. John D. Jr., lui, ne ressemble pas à son patriarche. Il n'a pas un sens aussi affûté des affaires. Après des études à l'université de Brown, il l'a pourtant rejoint, en 1897, à la tête de l'entreprise familiale. Mais dans les années 1910, il quitte la société pour se consacrer à la fondation familiale qui vient de voir le jour et à ses œuvres philanthropiques destinées à promouvoir le progrès scientifique dans le monde entier. Pour la deuxième génération, financer des actions culturelles, éducatives, scientifiques et médicales, construire des hôpitaux, des dispensaires et des écoles, est aussi le moyen de redorer le nom des Rockefeller. John D. Jr. s'intéresse en outre sincèrement aux arts. Aussi, lorsqu'il vient visiter le château quelques jours après la soirée féerique de Versailles avec son épouse Abby Aldrich et quatre de leurs six enfants, le milliardaire est accablé par ce qu'il découvre dans la lumière crue d'une journée d'été. Le spectacle n'est plus du tout le même. En réalité, la fête du 30 juin était un événement caritatif destiné à collecter des fonds pour le château qui en a terriblement besoin. Partout, les parquets s'affaissent, les toitures prennent l'eau. Celles du hameau de la Reine sont même recouvertes de bâches inesthétiques. Les marches qui descendent vers le parc sont brisées. Les canalisations des bassins du parc ne fonctionnent plus. Les grilles en fer forgé de l'orangerie tombent en ruine. Et même le char d'Apollon, statue emblématique des jardins, se fissure. Le château a pâti de la guerre. Il a vu partir ses agents au front et fuir ses visiteurs habituels. La dernière grande campagne de rénovation date des années 1830 et 1840. Et le fonds alloué par l'administration des bâtiments historiques est loin, mais très loin, de suffire devant l'ampleur des travaux nécessaires. De retour aux États-Unis, Rockefeller Jr. ne tarde pas à agir. Au printemps 1924, il adresse une lettre au président de la République, Raymond Poincaré, l'informant de sa décision d'une aide $1 million, soit 20 millions de francs, au patrimoine français, dont la moitié pour le seul domaine de Versailles. L'autre partie de la somme doit servir à la restauration du château de Fontainebleau et de la cathédrale de Reims. La répartition des fonds est confiée à un comité indépendant, le comité franco-américain pour la restauration des monuments, dont les membres sont nommés par Rockefeller. Mais le philanthrope laisse faire les experts. À peine glisse-t-il quelques exigences, comme celle de consacrer en priorité les fonds aux espaces clos et couverts, c'est-à-dire aux bâtiments, et de nettoyer la cour d'honneur des imposantes statues installées là par le roi Louis-Philippe au siècle précédent. Ces dons ont surtout pour ambition de stimuler l'engagement de l'État français dans la préservation de ces monuments. Et cela fonctionne. La même année 1924, l'Assemblée nationale vote la location annuelle de 4 millions de francs au domaine de Versailles, puis de 5 millions quelques années plus tard. Les travaux commencent en 1925, dirigés par Patrice Bonnet, l'architecte en chef du domaine. Il lance d'abord les restaurations lourdes et urgentes, celles qui touchent à la structure du bâtiment. Il faut restaurer les charpentes et les toitures pour mettre fin aux infiltrations. Pour que ces travaux résistent au temps, les matériaux d'origine, comme l'ardoise, sont remplacés par des plaques de plomb jugées plus solides. Peu à peu, le château reprend vie et les visiteurs retrouvent le plaisir de découvrir la demeure des rois de France. Dans la presse, John D. Rockefeller Jr. est décrit comme un sauveur. En 1926, il est fait citoyen d'honneur de la ville de Versailles. Ses largesses font grand bruit, d'autant que 3 ans plus tard, en 1927, le milliardaire fait un nouveau don, encore plus généreux, à la France. Près de 2 millions de dollars, soit 40 millions de francs, cette fois-ci précisément répartis entre les 3 monuments français. Pour Versailles, ce sont 23 millions de francs, dont 14 pour le château, 7 pour les Trianon et un peu plus d'un million pour le hameau de la Reine, l'endroit préféré de John Dee Jr. Armés de livres conservés aux archives nationales, les architectes sont capables de rétablir avec la plus grande précision le plan des allées, la hauteur des haies, la forme des tonnelles et jusqu'aux céramiques qui décoraient les balcons au temps de Marie-Antoinette. Pour observer l'avancement des travaux, John Dee Jr. organise 5 voyages transatlantiques jusqu'en 1936. Le 30 juin de cette année-là, 13 ans jour pour jour, après la fête somptueuse qui le fit tomber en amour pour Versailles, le généreux mécène inaugure le bosquet des Rocailles, fraîchement restauré, et l'avenue bordant le château, baptisée en son honneur l'avenue Rockefeller. S'il meurt très loin de Versailles en mai 1960, à Tucson, Arizona, John Davison Jr. est certain d'une seule chose. Il a réussi à associer à jamais le nom de sa famille à l'un des joyaux de l'histoire de France. Un joyau restauré pour qu'à travers le temps, les ors de Versailles continuent de rayonner à travers le monde.
Europe 1, historiquement vôtre.